en stock express.
Chronique bande dessinée.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce Bulle en Stock. Alors je l'appelle toujours Express, mais peut-être que ça va devenir le format un petit peu de Bulle en Stock maintenant, avec à chaque fois un thème. Donc là aujourd'hui c'est encore de la bande dessinée, j'avais plein de choses à vous présenter, mais il y a trois thèmes dans Bulle en Stock, vous le savez, c'est le manga, c'est la bande dessinée et le jeu de société. Et donc maintenant j'avais appelé ça Bulle en Stock Express parce que c'est plus court, du coup c'est au lieu des heures et demie que je passais, voire deux heures des fois à vous raconter plein de choses. Là on essaye de faire à peu près une heure, j'essaye de les faire plus régulièrement. Là cette fois-ci donc on part sur un Bulle en Stock spécial bande dessinée et on va commencer tout de suite à, par exemple avec les Chants du Chaos. Le tome 1 s'appelle Semaille, c'est des textes et des illustrations de Elk et c'est paru aux éditions Rue de Sèvres. Nous sommes dans un conte un peu fantastique, un petit peu post-apocalyptique. On ne sait pas trop dans quelle époque ça se situe justement, mais on sait qu'il y a un peuple qui s'appelle les Drevosens qui vivent coupés de tout le du monde. Et ils sont dans une sorte de village, mais entourés de très hauts murs. Pourquoi ? Parce que il y a donc des monstres qui vivent à l'extérieur et qui surtout peuvent transformer les humains dans cette ignominie. Et on va suivre donc dans cette histoire le prince Ivan qui traque les fameux monstres avec ses hommes afin qu'ils n'atteignent pas la ville et qu'ils protègent du coup son peuple. Et un jour ils vont retrouver un homme qui vient donc de l'extérieur et qui est tout à fait pur, qui malgré le fait qu'il puisse être, qu'il soit en contact avec les monstres, ne se change pas en monstre, parce qu'évidemment il y a un petit peu le système du zombie où on va se retrouver avec le contact humain avec une de ces ignominies qui va transformer l'humain. Alors qui est-il, d'où vient-il ce formidable robot? Ah non, ça c'est Goldorak, pardon. Le Chant du Chaos est très intriguant au départ. On est vraiment pris dans l'histoire dès le début, avec déjà un dessin absolument magnifique de Elk, qui est vraiment sublime. Il y a des planches en couleur vraiment très très bien choisies, avec toujours beaucoup d'atmosphère dans l'ensemble des planches, et la qualité graphique est vraiment au rendez-vous. Après, scénaristiquement, le début est vraiment bien prenant, on est dans quelque chose de très intrigant, on se demande ce qui se passe exactement, comment on va pouvoir vaincre éventuellement ces fameux monstres, et peut-être que cet humain que l'on découvre devant les hauts murs, peut-être que c'est lui la clé, et peut-être même l'espèce d'antidote à cette maladie qui empire de plus en plus autour de ces Drevosens. À part que le scénariste, donc Elk, qui est aussi le dessinateur, a choisi plutôt de concentrer et de recentrer son histoire plutôt entre la relation qui va se passer entre le prince Ivan et cet étranger, et une sorte d'histoire d'amour, d'amitié qui va se créer. Et c'est là que moi je m'y suis un petit peu perdu, parce que déjà je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais plutôt à essayer de voir comment on pouvait combattre une pandémie. En fin de compte, ça revient à ça. Et du coup, j'ai été un petit peu troublé. J'ai été aussi un petit peu troublé par certains dessins. Certes, ils sont magnifiques tous, mais des fois, des personnages peuvent se ressembler un petit peu. Et du coup, des fois, je m'y perdais un petit peu en me disant « Mais c'est qui lui, il est lui ?» Et donc, du coup, ça coupe automatiquement dans sa lecture. Après, je trouve que l'ensemble, le livre est magnifique, le dessin est magnifique et du coup on est quand même entraîné par la beauté du dessin. Mais il faut s'accrocher un petit peu pour le scénario, malgré le fait que la première partie est vraiment très intense et très intéressante. Et il aurait fallu quasiment que ça continue un peu dans cette façon d'écrire. là, on a une baisse un petit peu, je trouve, de l'envie et de la... Voilà, ça nous accroche un peu moins à un moment donné de la lecture. C'est un peu dommage. On va voir peut-être dans la suite s'il y en a. Normalement, c'est un tome 1, donc du coup, il devrait y avoir un deuxième tome. Et on va voir si tout ça se rééquilibre davantage. Les Chants du Chaos, du coup, est un bon, très très bon album graphique. Graphiquement, c'est sublime. Vraiment, l'objet en lui-même est magnifique parce que Rue de Sèvres sait faire des très très beaux objets livres. Et puis, on a envie que le scénario soit peut-être un tout petit peu différent. On va voir l'évolution de ces Chants du Chaos. En tout cas, laissez-vous tenter quand même pour voir un petit peu comment c'est. Ça peut-être vous surprendre graphiquement, je suis sûr. Et aussi, peut-être que le scénario vous accrochera, peut-être davantage que moi. Mais je suis prêt, lorsque le deuxième tome sortira, à relire le premier pour être sûr du ressenti que j'en ai eu pour vraiment, et j'aimerais bien vraiment que ce soit quelque chose que je vais apprécier grâce au deuxième tome qui va peut-être me compléter un petit peu tous les doutes, tous les petits tracas que j'ai dans la lecture du premier tome. Ça s'appelle Les Chants du Chaos et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Dans un autre univers, on part avec Rocketeer dans les années 30. Rocketeer, la cargaison maudite, c'est un récit complet de Dave Stevens, Mark Waid et Chris Samney. Et c'est aux éditions Delcourt, dans la collection évidemment comics, en collection contrebande exactement, mais c'est du comics évidemment. Rocketeer, vous le connaissez sans doute. Rocketeer, c'est une icône du comics américain qui est né dans les années 2008 exactement. Ah non, c'est la mort de son créateur en 2008, donc je ne sais pas exactement quand il est né, mais il est né dans les années 90, je crois, ou 2000. On va suivre Cliff Sicord, qui est un pilote d'avion, mais qui un jour trouve une fusée dorsale qui va lui permettre de pouvoir voler et donc de devenir autonome en vol. Il va avoir un casque doré et du coup il va pouvoir devenir The Rocketeer qui va aller combattre et sauver surtout les gens qui sont un petit peu en difficulté dans les airs, mais combattre grâce à cela aussi les nazis parce qu'on est en pleine époque de la Deuxième Guerre mondiale, ou en tout cas le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, cette fois-ci, il va encore venir en aide à une jeune demoiselle qui est aussi l'assistante donc mécanicienne de son ami Peavy, qui est un mécano hors pair. Et donc Cliff va aussi devoir toujours combattre les nazis, mais cette fois-ci, les nazis ont ramené des monstres particulièrement féroces. Je vous laisse découvrir dans cet album de quel monstre il s'agit. Alors on est sur toujours de l'action, évidemment, on est sur des choses un petit peu loufoques, grosses un petit peu dans les traits, et puis surtout pas mal d'humour, parce qu'il y a toujours cette jalousie entre Betty, la chérie de Cliff, qui voit toujours d'un mauvais œil qu'il aille sauver quelqu'un d'autre, et qui se demande toujours, qui est toujours suspicieuse pour lui, qu'est-ce qu'il devient, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, et ainsi de suite. Et donc du coup, il y a toujours cet humour sous-jacent qui est toujours très très agréable à lire, et le dessin là dans ce one shot de Rocketeer est vraiment excellent. J'aime beaucoup ce super héros qui n'est pas vraiment un super héros parce que c'est juste sa fusée dorsale qui lui permet de devenir un héros. C'est un personnage que j'avais moi découvert dans un film plutôt animé de Disney, pas un film animé, un film de Disney, un film live action que j'avais adoré et que j'adore toujours. Et c'est vrai que Rocketeer, je ne connaissais pas vraiment, je savais que c'était tiré d'un comics, je n'en avais pas lu, et celui-là, Rocketeer, la cargaison maudite, m'a permis de rattraper un peu de lacunes que j'avais en comics. Rocketeer, la cargaison maudite, un excellent album aux éditions Delcourt dans la collection Contrebande. Bon vent, là on part sur des illustrations, seulement des illustrations, mais quelles illustrations ? C'est de François Ravard et c'est aux éditions Glénat. C'est donc des illustrations autour de la mer, François Ravard est un dessinateur qui réside en Bretagne et qui donc a décidé de faire comme ça des aquarelles, des très belles illustrations autour d'un seul thème. C'est toujours là, ça va du lever de soleil jusqu'au coucher, et puis plusieurs époques aussi dans les histoires, dans la façon de les avoir retracées dans le livre. Et à chaque fois, on a soit un côté très poétique autour d'un couple ou d'une personne au bord de la mer, parfois du très humoristique, où on va avoir comme ça des personnages qui vont être superbement bien dessinés, tout à l'aquarelle, et qui vont toujours nous donner quelque chose, un petit peps rigolo lorsque l'on va les découvrir. Et puis voilà, c'est l'ensemble, se lit avec grand plaisir parce qu'on passe d'un côté un petit peu sampé, un petit peu dans ce style, dans le style d'humour, mais aussi un peu de contemplation. On a des très très belles planches où on a juste deux personnages assez petits, etc., qui font quelque chose, mais tout le reste, c'est un grand décor et qui est sublime, coucher de soleil, etc. C'est vraiment des très belles couleurs, et des fois c'est beaucoup plus simple encore, c'est juste blanc et il y a juste un personnage qui est dans une situation et qui du coup nous apporte le côté humoristique, mais en même temps la finesse du dessin de François Ravard qui est vraiment superbe. Bon vent, c'est dans une collection chez Glénat où il y a déjà plusieurs albums de cet acabit, où à chaque fois il y a un thème et des illustrations qui sont regroupées. Donc si vous aimez la poésie, l'humour, la Bretagne, les aquarelles évidemment, vous allez adorer, je pense, François Ravard. Découvrez-le, en tout cas, vraiment une bonne passerelle entre l'illustration pure et la bande dessinée. Ça fonctionne, mais merveilleusement bien. C'est vraiment très beau, très poétique. Un régal pour les yeux. IRL, c'est de Marc Essersal et de Henri Scala. Au scénario, Jérôme Savoyen au dessin, et IRL, c'est aux éditions Glénat. J'ai adoré cet album, mais il va falloir pas s'accrocher. Moi, je connais pas mal l'informatique en étant un prof d'informatique et de technologie au collège. Du coup, et évidemment, là, je m'y connais un petit peu. En tout cas, j'ai entendu parler de pas mal de choses autour de la cybercriminalité. Et là, on va suivre Roxane, qui est une élève de terminale assez renfermée, et on va comprendre assez vite qu'elle va sur le Darknet. Elle va sur le Darknet. Pourquoi ? Ben, on ne sait pas trop au départ, mais on voit qu'elle fait des choses illégales sur le Darknet. Le Darknet, je vous explique si vous ne le connaissez pas, c'est donc une sorte d'internet mais parallèle, qui est vraiment un endroit où se réfugient tous ceux qui font des choses illégales et où vont se partager beaucoup de contacts, beaucoup d'objets, beaucoup de ventes illégales de drogue, d'armes, éventuellement de photos et ainsi de suite, qui sont complètement illégales, des relations qui sont pas fichées, en fin de compte, qui sont pas fliquées, qu'on n'arrive pas à réussir à démanteler très facilement par rapport au réseau internet classique, dirons-nous. Donc du coup, ça brouille les pistes, c'est vraiment de l'illégalité pure. Enfin, tout le monde ne s'en sert pas pour ça, mais beaucoup s'en servent quand même pour ça, pour pouvoir essayer de prendre contact ou de vendre des choses complètement illégales. Et c'est ce que fait Roxane, sans que les autres le sachent, évidemment. Elle est habituée donc au dark web pour vendre des faux papiers. Des faux papiers, et du coup, elle fait ça pour une organisation. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui elle met en relation des gens. Il y a quelqu'un qui lui demande des faux papiers. Elle va demander à un autre interlocuteur de lui faire ses faux papiers. Elle les reçoit et ensuite elle les transmet. Donc, on a vraiment comme ça, elle fait partie de la boucle sans être obligatoirement la personne qui fait l'objet, mais qui, elle, permet de. C'est une sorte de receleuse où elle arrive à vendre comme ça ses papiers. Et un jour, elle a un gros coup qui arrive et elle accepte de voir le commanditaire IRL. Alors IRL, c'est in real life, pardon, dans la vie réelle, ce qui normalement ne doit absolument pas se faire, parce qu'évidemment, qu'est-ce qu'elle va avoir ? C'est qu'elle va se rendre à un rendez-vous, personne n'y est, mais maintenant on sait qui c'est. Et donc elle se retrouve bloquée, piégée par ce fameux commanditaire qui maintenant va la faire chanter en disant « Voilà, nous on veut retrouver celui qui fait les papiers, il faut que tu nous donnes qui il est, ou sinon il va y avoir des problèmes. » Et là, pile à ce moment-là, elle n'y croit pas trop au départ, mais sa mère a un accident de voiture. Son chat est retrouvé mort. Donc du coup, elle se doute, se dit qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est la réalité ou pas, ou est-ce que c'est juste des coïncidences ? Peut-être que d'autres choses encore vont la perturber beaucoup. En tout cas, il y a tout ce côté trafic sur la cybercriminalité qui est très très intéressant, mais qui peut des fois être un tout petit peu abrupt si vous connaissez pas un petit peu le système. Mais tout est expliqué, même si évidemment. C'est beaucoup plus facile à lire si vous êtes si vous connaissez un petit peu tous les rouages d'Internet. Mais après, l'enquête, le thriller est vraiment très bon. Évidemment, les policiers vont essayer aussi de récupérer des informations pour retrouver ces personnes. Enfin voilà, il y a beaucoup, ils essayent de démanteler le réseau. C'est vraiment très très bon. Le dessin est fin, un petit peu matinée de manga en même temps, mais vraiment dans quelque chose d'assez sérieux dans les visages, dans les attentions, dans les réactions aussi des personnages, dans les visages, en tout cas les réactions des visages, c'est vraiment très très bien réalisé et le thriller nous prend vraiment aux tripes pour savoir exactement ce qui se passe, si elle va réussir à s'en sortir et comment va-t-elle réussir à s'en sortir, à qui elle peut demander de l'aide, parce que normalement on ne va pas demander d'aide dans ces trafics-là, parce que tout le monde doit faire confiance aux autres tant qu'ils sont dans l'anonymat. Mais on ne fait pas de confiance lorsqu'il n'y a plus d'anonymat. Et justement, elle va être aussi, comme elle a un peu brisé l'anonymat qu'elle avait, elle va être aussi, peut-être avoir une chasse à l'homme sur sa tête. Donc peut-être qu'elle va être recherchée pour être tuée par d'autres qui font partie de cette bande-là. C'est vraiment très très bon, un très bon one shot que j'ai adoré. J'aime beaucoup ce que fait Mark Ezersal, donc à chaque fois c'est des bons polars comme Crystal 417 par exemple que je vous avais expliqué, ou alors le À mourir entre les bras de ma nourrice que j'avais adoré et que je vous avais aussi présenté. Vraiment des très très bons thrillers, très réalistes et qui vraiment sont proches de la réalité actuelle. On n'est pas sur du grand banditisme d'il y a 50 ans. On est vraiment sur quelque chose qui nous rapproche de ce que peut être la cybercriminalité, la criminalité de maintenant. IRL, donc un gros coup de cœur dans la collection Millefeuille de chez Glénat à découvrir d'urgence. On poursuit avec un petit chef-d'œuvre, encore une fois, d'or et d'oreiller. C'est de Mayalen Gust au scénario et au dessin. En tout cas, scénario, c'est l'adaptation d'un roman de Flore Vesco. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Alors, comme toujours, Rue de Sèvres, qualité du livre. Évidemment, superbe livre, superbement bien relié. En tout cas, c'est un vrai, vrai plaisir d'avoir des objets de ce type entre les mains. Et dans D'or et d'oreiller, on va suivre donc un jeune homme, un beau lord, qui veut se marier. On est dans le sort du conte un petit peu philosophique. Un lord qui veut se marier. Il demande donc à chaque prétendante qui vient au château de se soumettre à un test. Elle doit passer la nuit seule sur un lit de 10 mètres de haut. Mais à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe, donc aucune n'a réussi ce pari. Un jour, trois demoiselles arrivent avec leur servante et elles veulent faire le test pour voir si elles sont bonnes à marier avec le lord. Chacune va rater le test, mais le lord propose à la servante d'essayer aussi. Et là, que va-t-il se passer? Et ben, vous allez voir que la relation entre ce fameux lord qui est assez méchant, assez froid, assez sarcastique vis-à-vis des prétendantes qui viennent, a quelque chose d'assez profond en lui et ancré en lui, d'assez négatif. Mais voilà, peut-être que la relation qui va se lier entre Sadima, qui est donc cette fameuse, non pas princesse, mais servante, toute simple, peut-être que la relation qui va se créer entre eux, et peut-être que ça va lui convenir, peut-être qu'il va se passer autre chose, c'est très très, on est surpris, voilà. Et c'est plein de surprises, c'est vraiment un album où on se demande qu'est-ce qui va se passer exactement, pourquoi les prétendantes ont toujours raté ce fameux passage, et du coup on est happé par cet intérêt vraiment du conte pur. Et puis après, la relation petit à petit entre ce lord et Sadima va s'accentuer, on va essayer de comprendre un petit peu qui sont les deux personnages. Et les dessins de Maëlen Gust sont absolument magnifiques. La mise en page, la mise en couleur sont sublimes. Ça part dans tous les sens par moments. Il y a un côté onirique dans certaines planches. Les couleurs sont sublimes et du coup sublime l'ensemble des planches et des cases. Mais les cases que souvent Maëlen Gust oublie et fait exploser pour vraiment donner plein d'ampleur à son dessin. C'est vraiment superbe et les traits sont très fins, les traits des visages sont superbement bien exprimés, c'est absolument sublime. Donc déjà, graphiquement, on est happé et pris dans l'histoire parce que du coup, on est subjugué par les planches. Et en plus, l'intérêt du récit, qui est assez profond en fin de compte, avec vraiment la relation entre les deux, mais en plus un côté féministe, un côté résistance de cette femme qui n'est pas à la base là pour essayer justement de convaincre le lord de l'épouser. On est sur quelque chose d'assez fort et où les deux personnages justement principaux ont un sacré caractère et qui vont devoir, non pas s'affronter totalement, mais s'apprivoiser, dirons-nous un petit peu. D'or et d'oreiller, c'est vraiment un sublime album, un gros coup de cœur de Bulle en Stock. C'est aux éditions Rue de Sèvres, vraiment, c'est un album que vous n'oublierez pas et que vous relirez, même peut-être que vous allez feuilleter de nouveau, voilà, c'est mieux, parce que j'arriverai comme ça à le dire, que vous allez feuilleter de nouveau, juste pour la beauté des planches et la beauté des dessins. Vraiment un sublime album. Voir si le roman est encore plus profond, mais j'ai l'impression que l'adaptation est vraiment très très fidèle. D'or et d'oreiller aux éditions Rue de Sèvres, un petit chef-d'œuvre donc à lire absolument si vous voulez ne pas passer à côté d'un must-have dans votre BD Tech. On poursuit avec un gros volet. D'une même série, mais c'est une série tellement fleuve que vous allez comprendre pourquoi je vous en parle, parce qu'il y a eu beaucoup de sorties. Tout d'abord, je reviens un petit peu, il y a un petit moment maintenant, avec Donjon Antipode. Eh bien oui, je parle de Donjon, les fameuses sagas de Johan Svar et Lewis Trondheim, où on était d'abord sur Donjon Zénith, qu'on appelle Zénith, c'est-à-dire un donjon où il y a des héros des monstres plutôt, qui doivent sauvegarder un donjon, et donc des héros viennent essayer de tuer les monstres pour garder le trésor et pour gagner un trésor. Et du coup on suit Herbert et Marvin, en particulier Herbert le canard et Marvin le dragon, qui sont là pour protéger le donjon. Donc ça, c'est la base de Donjon, le premier tome. Mais après, il y a eu Donjon Zénith avec... Donc, Donjon Zénith, c'est l'histoire du donjon à notre époque, où il y a plein d'aventures qui se passent avec beaucoup de choses et beaucoup de rebondissements. On a ensuite eu Avant le donjon. Donc là, c'était la construction du donjon. Et là, on a aussi Donjon Antipode. C'est 10 000 après le enfin c'est plusieurs années après la chute du donjon justement, et là on va suivre un héritier un petit peu de Herbert le canard, qui s'appelle donc lui Rubeus Khan, le canard badass, qui est coincé dans les entrailles de Vaucanson avec Adélaïde Perséphone et le professeur Cormor, et il tente de comprendre ce qui attire les démons à la surface de la terre Amata. Alors évidemment, si vous n'avez pas suivi, là on est en plus 2003, c'est-à-dire que il y a eu plus de 10001 et plus de 10002. En fin de compte, on est dans le futur du donjon avec quelque chose de beaucoup plus science-fiction, avec des robots et ainsi de suite. Donc on a beaucoup plus de choses. C'est pour ça que peut-être vous allez être un peu déstabilisé si vous ne pouvez pas lire cet album tout seul. Il faut vraiment lire le donjon 10001, 10002, 10003 pour avoir le... En plus, c'est un cycle qui se termine où dans le 10001, justement, on a la découverte de ce fameux monde futuriste de donjon. C'est vraiment pour les puristes, pour ceux qui aiment donjon et qui connaissent un tout petit peu l'histoire du donjon. Mais c'est vrai que quand Johann Svarr et Lewis Trondheim ont créé ce fameux donjon où ils avaient commencé par faire des numéros un petit peu aléatoires, parce qu'il y avait le 1, le 2, le 3, après il y a eu le 100, le 101, le 102, et il y a eu le moins 99, et ainsi de suite, comme si on avait remplir tous les trous. Mais c'était quasi impossible, évidemment. Et là, Donjon Antipode, on est carrément sur moins 10 000 ou plus 10 000. Et là, on est donc dans le plus 10 000, où on est dans le futur, donc du donjon. Là, pour lire ce troisième diptyque, vous allez devoir peut-être un petit peu plus comprendre et connaître un petit peu le donjon. Mais en même temps, c'est lisible. Vraiment, si vous aimez plus l'action, beaucoup d'action, un peu un style comics, parce que c'est Vince qui dessine, le dessinateur, entre autres, de la superbe série Vortex avec Stan, que moi j'ai adoré, vraiment, je suis un fan de Vortex. Et du coup, on est vraiment sur l'univers plus comics de Donjon, avec évidemment toujours des personnages en forme de canard, en forme de personnages d'animaux, mais un peu plus réaliste quand même que dans d'autres albums de Donjon, où là on est davantage sur le dessin animé, sur le comics, sur le cartoon, que sur le comics. Donc là, du coup, c'est vraiment plein d'adrénaline. Pour ceux qui connaissent Donjon Antipode, il y a le troisième tome qui donc du 10 000, du plus, de l'Antipode plus, dirons-nous, qui est sorti, qui clôt un cycle. Et vous pouvez lire ces trois tomes séparément, enfin pas séparément, mais ensemble, pour faire donc la petite trilogie qui permet de voir donc ça bien après. Mais dans l'univers de Donjon, il y a aussi Donjon Parade, qui sont des histoires qui sont intégrés dans le donjon, donc plein d'histoires un peu différentes. Et Donjon Parade, ce sont des one-shots à chaque fois. Et à chaque fois, il va y avoir des dessinateurs différents. C'est ça qui est très original dans Donjon Parade, que j'aime beaucoup aussi. Et à chaque fois, une histoire plus ou moins drôle, plus ou moins écrite, bien écrite plutôt, je trouve, avec toujours Johann Svarr et Lewis Trondheim au scénario. Par exemple, là, il y en a eu 6 qui sont sortis d'un coup, donc je vais vous en parler. Donjon Parade, le sirop des costauds. C'est de Johann Svarr, Lewis Trondheim au scénario, Thébault au dessin, et aux éditions Delcourt, hein, tout est aux éditions Delcourt. Là, des paginations un peu plus courtes, on est sur du 32 pages, donc un peu plus enfant aussi. Mais là, quand je vous parle de Thébault, évidemment, vous vous dites « Ah, bah tiens, Captain Biceps, etc. » Donc, ça doit être quand même du cartoon. Et c'est carrément du cartoon. Et du coup, dans cette histoire, c'est une histoire assez simple, mais très très efficace, très cartoon. On est un petit peu sur du Astérix là même carrément, parce que un jour il y a des aventuriers qui arrivent au donjon et qui arrivent à brutaliser tous les employés, alors que normalement ils n'arrivent pas à avancer dans le donjon, parce que du coup les monstres qu'on leur fait défier évidemment sont plus forts qu'eux. Et Marvin et Herbert se disent mais qu'est-ce qui se passe, et en fin de compte les guerriers qui arrivent ont réussi à boire du sirop des costauds, Donc une sorte de potion magique qui les rend beaucoup plus invincibles et beaucoup plus moins vulnérables. Évidemment, il va falloir aller découvrir un petit peu ce que c'est. Bah, regardez juste la couverture, vous aurez l'impression de voir Astérix en train de frapper un Romain. C'est très drôle. Du coup, on est un petit peu sur ce côté aventure pour essayer de trouver qui vend du sirop des costauds aux aventuriers et que le donjon donc puisse être toujours sauvegardé. Donc là, c'est avec Thébaud au dessin dans le donjon parade, l'hostellerie des impôts. C'est toujours Johan Svarl et Wistrandheim, mais cette fois-ci, c'est Erwan Surcouf. Donc là, on était dans le tome 7 juste avant, le tome 8 avec... Erwan Surcouf, l'hostellerie des impôts. Cette fois-ci, on est sur quelque chose de, peut-être un peu moins pour enfants, mais super drôle. Le donjon n'a jamais eu à payer d'impôts jusqu'au jour où les pourvoyeurs exécutaires viennent réclamer leur dû. Et oui, en fin de compte, il y en avait à payer, ils n'en ont pas payé. Alors, Cadmion, qui est donc le chargé des documents dans le donjon, va chercher les documents nécessaires. Et là, tout a disparu. Avec sa future fiancée en plus. Donc apparemment, il y aurait quelque chose qui n'allait pas. Donc Herbert, le canard, part à la recherche de ce voleur et va se faire envoûter par cette voleuse en fin de compte. Alors, que va-t-il devenir? Est-ce qu'il va accepter d'être complice de cette demoiselle? Bah, vous allez le découvrir dans Donjon Parade, l'hostellerie des impôts. Très drôle aussi, très efficace. Avec un dessin, là, cette fois-ci, un tout petit peu plus réaliste que celui de Thébaud, évidemment, où là, on est sur vraiment, vraiment du cartoon pur. Donjon Parade, tome 9, cette fois-ci, c'est Nécromancien pour de faux. C'est de Johan Svarl et Wistrandheim et Delaf, le dessinateur des nombrils, et du dernier Gaston au dessin. Donc là, pareil, on retrouve un dessin un peu plus rond, un peu plus spirou, dirons-nous. Cette fois-ci, Ouros, qui est le nécromancien du donjon, doit se rendre à une sorte de conférence, de regroupement de différents nécromants. Et du coup, il décide d'envoyer Herbert à sa place. Et Herbert va se retrouver entre plein de nécromanciens et va se retrouver un tout petit peu pris au piège, surtout lorsqu'il va y avoir une nécromancienne qui va se jeter un petit peu sur lui pour vouloir lui faire l'amour. Et alors elle pense que c'est Horus, justement. Mais comment va-t-il s'en sortir? Et est-ce que vraiment Horus est au courant de ce qui se passe? En tout cas, pas mal de petits quiproquos qui fonctionnent vraiment pas mal. Là, j'ai apprécié cet album parce que du coup, même si le début, on a un peu de mal à comprendre au tout début le tenant et les aboutissants et puis comment Herbert est arrivé là. En fin de compte, on découvre assez vite où on est et tout ce qu'il va y avoir. Là, on est vraiment davantage sur, comme je vous dis, une sorte de pièce de théâtre avec plein de quiproquos et plein de gens parce que les nécromanciens peuvent changer leur forme. Donc, du coup, le fait qu'ils soient en canard, c'est pas un problème. On pense que ce nécromancien qui d'habitude a une tête de vautour, c'est juste changé en canard, quoi, peu importe, parce qu'il a ce pouvoir là à la base. Et puis quand Herbert va faire une bourde, il va se faire donc défier par un autre nécromancien, et là il a peut-être pas le niveau en nécromancie pour pouvoir le vaincre. Donc encore quelque chose qui va arriver et c'est vraiment très très drôle. Donjon Parade, tome 10, Micro Héros de Johan Svarl et Wistrandheim et Homme, cette fois-ci toujours chez Delcourt. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu spécial parce qu'on ne sait pas trop comment c'est arrivé, mais en tout cas, enfin si on le sait, mais il y a des raccourcis, je trouve, un petit peu trop dans le scénario. Le dessin, lui, redevient assez cartoon parce que les personnages sont en plus minuscules, donc ils jouent en plus là-dessus. Ils ont été miniaturisés, donc ils se retrouvent à hauteur de d'insectes. Donc Marvin et Herbert se retrouvent à hauteur d'insectes. Malheureusement, il y a un gros dragon qui arrive à l'entrée du donjon qui dit voilà, je veux maigrir, donc il me faut quelqu'un qui peut me faire maigrir tout de suite, ou alors je détruis le donjon. Ces deux plus grands guerriers que sont Herbert et Marvin ne sont pas trouvables. Et là, le gardien du donjon va essayer, lui, de temporiser pendant que le non pas le nécromancien, mais le magicien du donjon, bah, essaye de retrouver Marvin et Herbert qui sont, eux, réduits un petit peu à poussière. Mais comment les retrouver? Comment les retrouver? Et bah, ça va être notre paire de manches. C'est un petit peu plus touffu, un petit peu plus... Voilà. Il y a des raccourcis qui sont très vite faits, parce qu'on comprend comment ils ont été réduits. On ne voit pas vraiment comment ils ont été réduits. Je ne sais pas, j'ai trouvé un petit peu plus rapide scénaristiquement, parce que graphiquement, le dessin, il est super drôle. Je trouve que le petit Herbert et le petit Marvin, comme ça, dessinés comme ça, ils sont super mignons et tu as envie d'avoir presque les peluches qui vont avec. Donc le dessin, génial. Scénario, un petit peu plus rapide, dirons-nous. J'aime un petit peu... Voilà, j'aurais préféré un peu plus... De consistance dans le scénario et en tout cas un peu moins de raccourcis. Dans le tome 11, Éternel repos, Johannes Farley-Louis Trondheim est soulcié cette fois-ci, donc toujours aux éditions Delcourt. Là, on est sur un autre style parce que Cavalerus de Cavalère, le cousin éloigné du gardien du donjon, et veut mourir absolument au donjon qui est le berceau de sa famille. Donc du coup, il arrive, mais le gros problème, c'est qu'il est le gourou d'une secte très nombreuse. Et du coup, il va falloir éviter qu'il meure sur place, parce que, et en tout cas, éviter les hordes de fanatiques qui vont arriver, parce que évidemment, ils vont vouloir venir prier sur, venir récupérer, ou venir en tout cas sur la sépulture de leur gourou. Et là, c'est ce que va essayer d'éviter Herbert dans cet album. Donc là, on est davantage sur un style de nouveau, un petit peu plus... toujours rond, mais comme c'est Soulcier est un dessinateur de presse, donc on est un peu plus sur un style un peu plus lâché par moment et très très dynamique. En tout cas, ça fonctionne très très bien encore. Et c'est ce qui est marrant dans Donjon Parade, c'est vraiment les styles graphiques que vous allez avoir, mais avec les mêmes personnages. Et c'est ça qui est drôle, c'est que les personnages, en fin de compte, ça ne nous dérange pas. Ils ont toujours les mêmes caractéristiques et physiques, parce qu'il y a quand même des bases de la caractéristique physique, mais aussi toutes les personnalités sont toujours là. Et ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment très bien. Et là, Soulcier réussit aussi le passage de son donjon parade vraiment excellemment. Et puis le dernier, qui est paru pour l'instant en tout cas, Donjon Parade, tome 12, de Chaos Crescendo, c'est de Lewis Trondheim, Johan Svar, mais ça vous le savez, au scénario, Mathieu Burnia au dessin, j'allais dire au téléphone, je vois pas pourquoi. Et donc ce 12e tome est toujours paru chez Delcourt, toujours dans la même collection. Là, cette fois-ci, c'est les plans du donjon qui ont disparu. Il y a tous les passages secrets, il y a tous les trésors, tout et toutes les informations pour pouvoir facilement venir récupérer ce que l'on veut dans le donjon sans se faire même attaquer. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Herbert, lui, cette fois-ci le canard, il a pris carrément le plan pour faire la liste de ses courses. Et du coup, il va falloir retrouver absolument ces précieux objets. Donc vous avez compris, une aventure encore de Herbert, le canard un peu facétieux, en tout cas un petit peu bébête par moment, mais qui a un énorme pouvoir, c'est qu'il peut se changer en gros monstre, mais que à certaines conditions. Alors Donjon Parade, vous en avez 6 nouveaux. Donjon, c'est vraiment une série que moi j'apprécie énormément depuis le début, mais il va falloir... Alors Donjon Parade, on peut les lire séparément, mais comprendre un petit peu quand même ce que c'est que la base du donjon. Il vaut mieux lire un tout petit peu les premiers tomes de Donjon, justement, le donjon, maintenant qu'on a appelé Zénith, au début ça s'appelait que Donjon, Donjon Zénith, pour comprendre un petit peu qu'est-ce que le donjon et qui sont les personnages, mais ensuite vous allez pouvoir vous régaler en allant piocher dans les différentes époques. Il y a des albums vraiment que l'on peut éviter, d'autres qui sont vraiment excellents, qu'il ne faut pas et qu'il faut pas laisser de côté. Mais on a quand même une grosse dose d'albums à lire si on veut découvrir le donjon ou si on veut continuer à plonger dans le donjon. Vraiment, une grosse réussite. Moi, j'adore Donjon depuis le début, comme je vous ai dit, depuis la naissance du donjon, et je suis fan absolu. Donjon Parade, donc du coup, 6 tomes en même temps, plus le donjon Antipode, plus le 3e tome du donjon Antipode Plus. Grosse dose de donjon pour ceux qui ne voulaient en avoir encore. Et pour ceux qui découvrent, comme je vous disais, lisez les deux ou trois premiers tomes de Donjon Zénith, qui va vous permettre de comprendre un petit peu la genèse du donjon. Et après, Donjon Parade, bah, ce sont les mêmes personnages, mais avec des histoires différentes, de 32 pages, très simples et très efficaces la plupart du temps. Comme je vous ai dit, des petits bémols sur certains scénarios qui sont des fois un tout petit peu trop rapides. Vous voulez encore un petit chef-d'œuvre, allez, c'est ce que vous m'avez dit, je crois, ben Shin Zero, le tome 1. Alors là, je le mets dans les romans, enfin, romans graphiques BD, mais en fin de compte, c'est du manga quasiment. Shin Zero, le tome 1 est sorti, c'est de Mathieu Babelais et Guillaume Singelin au dessin et au scénario, et c'est toujours chez Rue de Sèvres. Quand je dis toujours, c'est que là, il y a toujours des très bons albums chez Rue de Sèvres. Je dis toujours, mais alors j'en ai parlé de plein d'albums d'Elcourt juste avant ou de Glénat. Là, c'est chez Rue de Sèvres, pardon. Et du coup, on va plonger vraiment dans l'univers des japonisants et japonais à fond. Parce qu'on va parler de kaiju, on va parler de sentai. Alors pour tous ceux qui aiment les kaiju et les sentai, vous allez adorer cet album. Mais qu'est-ce que sont les kaiju et les sentai ? Les kaiju, ce sont les gros monstres. Vous voyez, le plus connu de ces kaiju, c'est Godzilla. Godzilla, c'est un gros monstre, une sorte de gros dinosaure, de gros lézard vert. Enfin, vert, il était noir et blanc au début, donc il n'était pas vert. Qui représente à chaque fois un danger, mais surtout qui a été créé à chaque fois par les débordements de l'homme. Donc, comme les recherches sur l'armement nucléaire, par exemple, et ce qui a fait sortir de son repos Godzilla qui va se venger sur les hommes. Donc à chaque fois, il y a le côté, il n'est pas là juste par hasard et les hommes vont être géniaux parce qu'ils vont le tuer. C'est un peu eux qui l'ont créé, donc ou réveillé ou créé. Donc du coup, le kaiju à chaque fois représente certes une menace, mais aussi les abus de l'homme et en particulier sur la nature et sur leur environnement. Donc, le kaiju, on connaît grâce à Godzilla. Les sentai, vous les connaissez aussi. C'est les Xor, les Power Rangers, Spectreman, les Super Sentai aussi, qui sont, en fin de compte, des escadrons qui vont se regrouper, qui ont des personnalités différentes. Ce sont des hommes, des femmes, et qui vont à chaque fois se réunir pour pouvoir essayer de vaincre des ennemis qui vont arriver et qui, justement, ben, sont encore plus forts quand ils sont ensemble parce qu'ils peuvent soit diriger un robot, par exemple, quand ils ont chacun leur unité, ça va former un grand robot qui va pouvoir battre et combattre, donc, par exemple, des kaijus, mais ou en tout cas une invasion extraterrestre et ainsi de suite. Mais on les reconnaît souvent parce qu'ils sont avec des collants, ils sont avec des casques, et ils ont chacun une couleur très différenciée. Donc on va avoir dans Bioman, par exemple, des rouges, des roses, ou Power Rangers, rose, jaune, la force jaune, force rouge, force verte, et ainsi de suite. Et chacun avec sa personnalité, et chacun avec ses problèmes. Et du coup, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que du coup, dans cet album Shin Zero, on va parler de kaiju et de sentai. En effet, les kaiju, bah, ils ont complètement disparu. C'était il y a 20 ans, le dernier monstre géant qui est venu des mers a été vaincu par justement les derniers sentai qu'il y avait aussi. Et du coup, depuis, les sentai sont soit partis en retraite, vu qu'il n'y a plus d'ennemis, ils sont partis soit en retraite, soit bah, ils se sont reconvertis dans des petits métiers vraiment pas très en vogue. Et on va suivre une bande de jeunes qui justement bah, sont un petit peu des jeunes pas à l'abandon, mais qui savent pas trop quoi faire. Ils ont des petits boulots, des choses comme ça, mais mal payés pour la plupart. Et on va suivre Warren, Nikki, Héloïse, Satoshi et Sophia qui essayent de trouver, voilà, ils sont amis, ils sont colocataires et ils vont essayer de trouver un peu la place dans le monde. Et puis un jour, il y a un kaiju qui revient. Donc eux sont sentai. Parce que maintenant, tout le monde quasiment peut devenir sentai facilement, il faut s'inscrire, etc. Et du coup, dans cet univers donc de Sentai et de Kaiju. On va pour l'instant, dans ce premier tome, mettre en place vraiment cet univers. Et ensuite, on va partir un peu à l'aventure, mais on est presque frustré. On est complètement frustré même. Je dis presque, non, on est complètement frustré d'arriver à la fin de l'album. Parce que du coup, arriver à la fin de l'album, on a envie d'en avoir plein, quoi. On a envie d'avoir la suite. Parce que Shin Zero, c'est juste une sorte de drogue. C'est une drogue où on va commencer à la prendre avec des dessins très japonais, donc noir et blanc, mais avec les couleurs des costumes qui ressortent. Donc on va avoir des points de rouge, de jaune, de vert. Enfin, c'est génial. C'est génialement fait. Et des dessins, évidemment, au cordeau par ces deux grands auteurs, Mathieu Bablet et Guillaume Saint-Gelin. C'est dans la collection 619. Donc, eux ont déjà fait des albums dans cette collection-là. Et du coup, évidemment, on les connaît. C'est vraiment des tueurs dans cette nouvelle génération de dessinateurs. Et puis là, ils se sont mis ensemble avec deux univers qu'ils adorent, les kaiju et les sentai. Et puis, ils nous offrent quelque chose d'assez désabusé, d'assez... triste, morose au départ, et on sent qu'il va y avoir quelque chose derrière, qu'il va y avoir de l'action davantage. Il n'y en a peut-être pas beaucoup dans ce premier tome, mais en tout cas, on a toute la mise en place qui est déjà géniale, avec un univers assez foisonnant. On est vraiment dans quelque chose de très très bon. Un petit chef-d'œuvre que je vous recommande grandement. Que vous soyez fan de manga, ça vous plaira, parce que du coup, même s'il y a une lecture à l'européenne, donc de gauche à droite, ça va vous plaire automatiquement, parce que vous avez plein de refs dedans qui sont incontournables. Et si vous êtes fan de romans graphiques et de très très bons, très très bons albums de bande dessinée, vous allez adorer aussi. C'est très moderne aussi dans le dessin, et dans le caractère design est génial. Enfin, tout est bon dans ce Shin Zero que je vous recommande, mais grandement, mille fois, cent mille fois. C'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est un pur chef-d'œuvre. Shin Zero tome 1 dans la collection 619 de Rue de Sèvres. C'est une petite bombe. La grosse recommandation, là encore, de Bulle en Stock. Il y en a quelques-unes encore cette fois-ci. Je préfère en avoir plus que pas assez dans les recommandations. Voilà, donc Shin Zero, un petit chef-d'œuvre que je vous recommande grandement. Allez, on va finir avec des choses un petit peu plus jeunesse, adolescent, enfin plus, ouais, jeunesse, ado, adulte, en tout cas lisible par toute la famille, comme par exemple ce Games Over même, qui est un best-of de Game Over. C'est de Midam et Adam au scénario et au dessin. C'est dans la grande classique, donc c'est chez aux éditions Glénat toujours. C'est toujours ce fameux avatar que l'on a découvert dans Kid Paddle, qui est donc son avatar de jeu de vidéo, où on a un petit guerrier qui à chaque fois doit arriver à la fin de son niveau avec sa princesse. Il doit sauver la princesse et ensuite aller à la fin de son niveau. Et en fin de compte, à chaque fois il se passe quelque chose avec des blorks. Des blorks, ce sont les gros monstres, et à chaque fois il se passe quelque chose de complètement inédit. Il n'y a pas de parole, c'est toujours très drôle. Là c'est un petit best-of avec tout le bestiaire que vous allez retrouver, qui ont été pris de tous les albums. Évidemment, c'est complètement dispensable si vous avez l'ensemble des albums, parce que vous allez retrouver, il n'y a aucun inédit. Mais par contre, si vous aimez juste, ou alors même pour offrir par exemple à quelqu'un qui ne connaît pas, Game Over, The Over, ça peut très bien fonctionner. Moi, je sais que cet album-là, je l'ai offert parce que j'ai moi l'intégrale de Game Over. Je suis un fan, je les lis régulièrement. C'est très facile à lire, mais je les ai complètes en édition complète, donc je ne vais pas prendre les best-of en plus. Mais en tout cas, Game Over est toujours une super série qu'il faut absolument posséder et lire. Game Over aux éditions Glénat. Sex, Drugs and RER, il y a deux tomes pour l'instant de paru. Le premier s'appelle Attention à la fermeture des portes et le deuxième s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Oh, j'ai oublié, je vais rechercher de ce pas le nom de l'album. Ça y est, je l'ai. Perturbation sur toute la ligne. Et les deux albums c'est de Natacha Ratto et c'est aux éditions Delcourt. Alors il y en a qui vont me dire mais j'ai déjà lu Sex, Drug and RER. Bah oui, moi aussi je les ai lus, Sex, Drug and RER. Pourquoi? Parce que c'est un webtoon à la base que j'ai moi beaucoup apprécié. Parce que les webtoons, d'habitude, on est vraiment sur quelque chose de plus japonais et ainsi de suite. Et on est sur quelque chose que. Justement, qui est un petit peu emprunt de comment dire, de quelque chose d'asiatique. Et là, on est complètement sur du réel français. Voilà, on est sur du réel français parce que on va suivre Léon, qui est un jeune diplômé de Charente, et il vient d'être accepté à la fac à Paris. Donc, super content. Mais juste avant de partir, il y a sa copine qui le largue, alors que lui, il pensait avoir un grand, grand amour et qui se posait juste la question de dire « Bon, est-ce que notre amour va survivre à cette distance ?» Et en fin de compte, ben non, il se fait larguer comme une merde. Il est un peu triste, etc. Mais il arrive dans une colocation et là, tout va changer parce qu'il va suivre les quotidiens avec son nouveau colocataire. Et puis ben, le RER, les cours à la fac, et puis le petit bistrot où ils vont se retrouver le soir. Et ça marche vraiment très très bien comme histoire, c'est très simple. Mais qu'est-ce que c'est efficace, qu'est-ce que c'est drôle. Les dessins sont très bons, l'ambiance est agréable, et puis on sent l'évolution graphique de Natacha Ratto, parce que les webtoons servent aussi à ça. Ce sont des chapitres que l'on va faire petit à petit et sur une grande distance, à un moment donné, on va s'améliorer graphiquement obligatoirement, narrativement. Les personnages vont prendre de la profondeur, vont prendre de l'ampleur. Et du coup, ça se sent, parce que Sex, Drugs and RER est déjà fini en webtoon, mais si vous lisez du début à la fin, le début, on a l'impression de le voir un petit peu fragile, mais en fin de compte, ça fonctionne parfaitement bien, c'est drôle, les personnages sont attachants, attachants pour certains, certains sont complètement excessifs, mais en même temps, on a envie de leur venir un petit peu en aide. En tout cas, Sex, Drugs and RER est vraiment excellent. C'est à découvrir soit par Webtoon, mais Delcourt en sort donc une version papier que je trouve de très très bonne facture. Et je pense que je vais la garder, cette version papier, parce que je l'ai beaucoup appréciée et que j'ai envie de la faire partager à d'autres qui ne peut-être le lisent moins des Webtoons. Moi, j'en lis pas très. C'est le seul, en fin de compte, que j'ai vraiment lu jusqu'au bout, parce que pareil... Il y en avait une autre que je suivais, mais qui est aussi sortie en papier, version papier. Donc du coup, je l'ai gardé la version papier. J'ai lu que la version papier même, donc de ce webtoon. Ça s'appelle Sex, Drugs and RER et c'est de Natacha Ratto aux éditions Delcourt. Les deux premiers tomes sont sortis pour l'instant. Les Mondes Perdus, tome 2. Je vous avais déjà dit le plus grand bien du tome 1. Vraiment un petit souffle de plaisir dans déjà graphique, parce que le dessin est absolument magnifique. Et là, il y a encore, évidemment, parce que le deuxième tome, il y a toujours la même dessinatrice qui est aux commandes des crayons. Et puis l'histoire, même si assez simple et peut-être va être peut-être un peu redondante si on part toujours un peu de ce principe-là, mais nous fait découvrir vraiment des pays et des imaginaires. Enfin, non, pas des imaginaires, des réalités, justement. Très très agréable. Les Mondes Perdus, tome 2, s'appelle La Danseuse d'Angkor Wat. C'est de Ocha au scénario, Isabelle Lemopiéfer au dessin. et c'est aux éditions Dupuis. Alors comme je vous disais, déjà graphiquement, c'est toujours aussi beau, toujours aussi agréable à lire. C'est superbe, les planches sont magnifiques, la couleur est magnifique. Donc vraiment une grosse réussite graphique, comme le premier tome. Et comme dans le premier tome, on va suivre Ami qui va suivre son père qui est un archéologue et qui à chaque fois va à des endroits un petit peu différents dans le monde et elle arrive à suivre son père. Et donc là, elle va quitter Londres, Amy, et va donc aller à Angkor Wat dans les fouilles du site Angkor Wat. Et donc Amy qui est devenue l'assistante de son papa va l'accompagner. Après un voyage qui va d'abord l'amener à Phnom Penh au Cambodge, elle va arriver ensuite à Angkor Wat. Et là, elle va être accueillie par Sofal, une danseuse qui a la particularité d'avoir l'âge d'Amy, donc c'est-à-dire on va dire une quinzaine, un petit peu moins, même 13-14 ans. Son éléphante, donc qui aussi accueille Amy. Il y a toutes les fouilles, toute la découverte du site archéologique, évidemment, qui va être la base de cette première, dès l'arrivée de Amy, mais elle va aussi découvrir qu'il y a des trafiquants d'antiquités qui sévissent et qu'il va falloir à tout prix arrêter. Elle est juste enfant, adolescente en tout cas, elle va réussir ou pas à vaincre justement, à bloquer ces trafiquants. Est-ce que ça va réussir ou pas? Je spoil pas, mais vous avez déjà un petit peu la réponse. Bon, en tout cas, voilà, ça va être une plongée dans un autre univers graphique cette fois-ci, en tout cas un autre pays. Donc évidemment, l'univers graphique change un petit peu, même si le style graphique de Isabelle Liamo-Piefer continue à être aussi éblouissant. Mais évidemment, toute l'ambiance du Cambodge et de ses sites archéologiques va changer par rapport au premier tome où là on était dans l'Amérique du Sud si je me rappelle bien. Donc Les Mondes Perdus, toujours un grand plaisir de découverte, un grand plaisir de lecture et vraiment une lecture pour tous, que ce soit collégiens, même les plus grands. Bon, après, comme je vous ai dit, c'est un petit peu simple peut-être comme scénario, on n'est pas sur quelque chose de très poussé, mais en même temps très agréable à lire. Voilà, c'est vraiment une petite lecture familiale qui est très agréable. Et puis graphiquement, comme je vous disais, un petit bonheur pour les yeux. Les Mondes Perdus, tome 2, aux éditions Dupuis. Un roman graphique plutôt jeunesse avec Bonnie et les enfants perdus. C'est de Béatrice Revel et c'est aux éditions Sarbacane, dans la collection jeunesse évidemment de chez Sarbacane. C'est un excellent roman graphique, vraiment d'aventure. Ça se passe dans un orphelinat un petit peu sévère, voire très sévère même. Des enfants disparaissent enlevés par un terrible train noir. En tout cas, c'est la rumeur que Bonnie essaye de répandre, en tout cas pense être vraie, parce qu'elle fait partie de l'orphelinat justement. Et sa meilleure amie, elle, qui s'appelle Charlie, n'y croit pas du tout. Ce sont des histoires, c'est pas vrai. Les enfants qui ont disparu, en fin de compte, ont été adoptés. Et du coup, elle pense que, voilà, même si l'orphelinat est très sévère, pour autant, ce sont des bonnes nouvelles si les enfants disparaissent. Mais, un jour, Bonnie, qui a été punie encore une fois, se retrouve donc la nuit, en plein milieu de l'orphelinat, au cachot même, et elle entend un sifflement. Et elle voit des petits camarades passer devant son cachot, justement, comme hypnotisés. Ils se lèvent de leur lit et montent dans ce fameux train noir qui enlève les enfants. Elle va évidemment se faire passer pour qu'il y ait un de ses enfants, et elle va essayer de voir ce qui se passe, évidemment. Je vous en dis pas de plus. Parce que c'est très très bien fait, c'est très surprenant et c'est justement pour ça que est intéressant le livre. Parce que si certes ça commence comme une histoire un petit peu dure, mais certes pour les pauvres orphelins, mais ça continue encore plus. Et puis il y a pas mal de choses qui vont se passer, il y a beaucoup d'aventures et beaucoup de rebondissements dans cette aventure. C'est très très agréable, un dessin un petit peu cartoon et en même temps un petit peu sombre aussi par moment, quand on regarde le train, il est quand même assez, assez dur, il fait peur un petit peu. Donc on est entre le conte et le conte un petit peu sombre, un petit peu noir, mais c'est très très agréable à lire. Vraiment un bon roman graphique fait par une autrice française dans un format roman avec une couverture souple qui d'habitude est souvent l'adaptation de romans graphiques américains pour enfants, pour jeunesse en tout cas. Là, c'est une autrice française, donc Béatrice Revel, qui nous crée tout cet univers. Le train est très intéressant à décortiquer un petit peu, à voir, et l'intérieur du train évidemment, et toutes les personnes qui y travaillent volontairement ou involontairement, souvent plus involontairement, ben voilà, tout est bien détaillé et vraiment dans un univers très, très fantasmagorique, un peu onirique, qui est très plaisant à découvrir. Ça s'appelle Bonnie et les enfants perdus. Vraiment un très bon album de Bonnie. Un bon album de Bonnie. Wow, ça marche pas mal. Bon album de Bonnie aux éditions Sarbacane. Et pour finir, le tome 2 des Petits Vétos Dingo. Les Petits Vétos Dingo, le deuxième tome s'appelle Éléphant Vol. C'est de Armel Modéré et c'est aux éditions Delcourt Jeunesse. Ben là, on est vraiment dans le dessin très cartoon d'Armel Modéré, où l'on suit deux enfants qui sont Charlie et Théo, qui ont par particularité de vivre chez des vétérinaires, parce que leur papa et leur maman sont vétérinaires. Et du coup, ils sont appelés à la rescousse dès qu'il y a un problème avec des animaux un petit peu bizarres, des choses qui arrivent, qui ne sont pas naturelles, comme par exemple, cette fois-ci, le zoo de Vic la gazelle qui contacte ces deux détectives parce qu'il y a une mystérieuse disparition. C'est Marius qui a disparu. À part que Marius, c'est un éléphant de 4 tonnes. Et il n'y a pas de traces par terre. Apparemment, il s'est volatilisé. Comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et puis surtout, pourquoi l'a-t-on enlevé si on l'a enlevé? Est-ce qu'il s'est envolé tout seul? Est-ce que c'est un éléphant volant? Est-ce que c'est Dumbo? Non, c'est Marius, donc c'est pas pareil. Donc voilà, les deux jeunes détectives qui vont essayer de mener l'enquête. C'est très très mignon, c'est très bien fait, c'est très sympathique. Vraiment plus pour enfants là sur cet album, et comme le premier aussi. Mais il y a plein d'animaux rigolos, très cartoon comme je vous le disais, et du coup c'est très dynamique avec plein de petits rebondissements. On voit arriver le truc. Moi, je l'avais un peu deviné comment il avait disparu, l'éléphant. Mais je me suis dit que si j'étais un éléphant de 6 ans, un enfant de 6-7 ans, peut-être que je me serais posé la question, même s'ils ont beaucoup d'imagination. Mais en tout cas, voilà, vous allez découvrir, grâce au Petit Vétos Dingo, ce deuxième tome, comment cet éléphant qui vole a pu s'envoler, justement. Voilà, c'est la fin de Bulle en Stock avec cet éléphant qui a disparu, avec Marius qui a disparu. Vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques et l'ensemble des albums chroniqués sur la page Facebook de Bulle en Stock, avec un S dans Bulle, et puis aussi sur ma page Facebook à moi, Steven Bescon. Vous allez aussi pouvoir retrouver sur radiograndparis.fr, la radio qui anime grâce à Nicolas Gaudin Bulle en Stock, radiograndparis.fr. Vous pourrez retrouver aussi l'ensemble des anciennes émissions, et pareil aussi sur Spotify et les autres plateformes de streaming. On va continuer, je pense, donc ces formats d'une heure toutes les semaines. Voilà, si j'arrive à tenir le rythme toutes les semaines, ce sera très bien. Et comme ça, vous aurez régulièrement votre petite dose de Bulle en Stock, même si ce sera sur un sujet. Je pense que la prochaine fois, on va faire un petit peu de manga. Et puis, les jeux de société arrivent assez vite aussi, parce que j'en ai pas mal à vous présenter. Mais aussi pas mal de BD. Donc du coup, je vais me remettre au boulot. Allez! À très très bientôt. Merci d'avoir écouté ce Bulle en Stock. Bulle en Stock Express.